France Inter. Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons ce matin dans le grand entretien de la matinale la ministre du Travail. Questions et réactions 01 45 24 7000. Vous le savez, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter, vous avez la parole dans une dizaine de minutes. Muriel Pénicaud, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être en studio sur Inter. Il y a deux ans, jour pour jour, Emmanuel Macron remportait l'élection présidentielle. Hier, à Matignon, Édouard Philippe recevait les associations d'élus et les syndicats, moins la CGT qui a décliné, pour lancer, je cite, une mobilisation nationale et territoriale pour l'emploi et les transitions écologiques et numériques. Le Premier ministre a parlé d'un changement de méthode. Deux ans après, donc, Muriel Pénicaud, adieu la centralisation et la verticalité. Cette première méthode avait échoué ?
Je crois que la première méthode, elle avait du bon, mais elle n'est pas suffisante. Ce qui était bien déjà, c'est les concertations. Quand on a fait les ordonnances travail ou la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou l'égalité entre les femmes et les hommes, moi j'ai toujours travaillé avec les partenaires sociaux, on faisait de la concertation.
Mais ça ne suffisait pas.
Mais il y a un cap nouveau, c'est d'aller concrètement agir ensemble. Donc c'est si j'ose dire, de la co-construction, c'est pas simplement de la concertation. Ce qu'on a, avec le Premier ministre et plusieurs collègues du gouvernement hier, fait, on a rencontré les partenaires sociaux, patronat et syndicats, et les 9 associations d'élus locaux, donc les régions, les départements, les communes, les maires de villes rurales. Et on a regardé ensemble quels sont ce qu'on appelle les angles morts, comme en voiture, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas dans le rétroviseur. Et quelquefois, dans les politiques publiques, il y a des angles morts.
Et c'est ça qu'il va falloir régler.
Mais ça, c'est de l'action, c'est de l'engagement commun sur le terrain, et ça ne se fait pas à Paris.
Deux petites questions encore.
C'est ça qui est important. Ça ne se fait pas à Paris, mais c'est partout sur le territoire.
Deux petites questions encore sur la méthode. Il y a eu juillet 2018, il y a eu décembre 2018. C'est la troisième fois que l'exécutif annonce qu'il va associer les corps intermédiaires aux réformes. Qu'est-ce qui prouve que cette dernière fois sera la bonne et pourquoi surtout avoir attendu si tard ?
Je crois qu'on est aussi dans une phase maintenant où il faut, j'allais dire, comment, il faut des résultats. Quand vous arrivez au gouvernement, le président de la République a nommé son gouvernement il y a 2 ans avec un agenda de réformes très important pour faire aller mieux le pays, les Français. Ça met du temps à mettre en place les réformes. Mais maintenant, ça fait 2 ans qu'on est là. On peut pas avoir tous les résultats en 2 ans. Il y en a qui mettent 3, 4, 5, même plus. C'est pour le long terme qu'on agit. Mais il faut des premiers résultats. Et pour ça, il faut aller sur le terrain. On y va, on visite, mais maintenant, agir sur le terrain. Je vous donne un exemple, la loi sur l'apprentissage. Je suis très fière de l'avoir portée. Dans la loi Avenir Pro, on a eu plus 8% d'apprentis l'année dernière. La tendance est encore meilleure depuis le début de l'année. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Maintenant, il y a une demande des jeunes. C'est formidable. Ça y est, les jeunes ont réalisé que c'est une voie royale pour aller vers les métiers. On a plus 40% de demandes de jeunes. Et bien maintenant, comment on fait pour être sûr qu'on ait les entreprises en face ? Et puis il y a des jeunes, ils voudraient aller en apprentissage, mais ils n'ont pas le logement. Ou bien, ils n'ont pas le transport. Et bien, tous, pour régler ces problèmes-là, il faut être sur le terrain, avec les mairies, les partenaires sociaux, l'État. On a besoin de tout le monde pour résoudre des problèmes qui ne dépendent pas que de l'un, mais un peu de tout le monde. En gros, c'est mobilisation générale pour vraiment apporter des solutions concrètes là où il y a des angles morts.
Des solutions qui pourront être différentes selon les régions ?
Oui, parce que moi je fais 2 déplacements par semaine, je passe 2 journées sur le terrain, je peux vous dire que, comme tout le monde, je constate quoi ? Que les problématiques, par exemple, de logement ou de transport, ou d'offres et demandes en matière d'emploi, c'est pas du tout la même quand vous êtes dans une partie rurale des Pyrénées-Orientales, avec 14,5% de taux de chômage, ou si vous êtes en Mayenne ou en Vendée, où le taux de chômage est extrêmement bas, ou en métropole lyonnaise. Donc il faut adapter ces solutions. Par exemple, il y a des endroits où le sujet de la garde d'enfants pour les femmes seules, les hommes seuls aussi, mais enfin, c'est souvent des femmes avec enfants, est l'obstacle numéro 1 pour retrouver un logement. Ben là, il faut se concentrer là-dessus. D'autres, ça va être les transports ou le logement. Donc, je crois qu'il faut être très pragmatique. Et c'est qu'au niveau du terrain, avec tous les acteurs, qu'on peut trouver les solutions concrètes. On a mis en place les dispositifs, on a les lois, on a les financements. Maintenant, l'action sur le terrain ensemble.
On sait que le chef de l'État a sa propre conception, disons, de ce que doivent être les syndicats, les partenaires sociaux. Est-ce que là, c'est un nouveau rôle que vous leur assignez, c'est-à-dire moins finalement de place dans les grandes orientations, dans ce que le chef de l'État appelle lui-même la politique, et puis peser plus au niveau local ?
Alors, il faut rien changer sur les grandes orientations. Il faut continuer à consulter, à concerter sur les grandes orientations. Mais je crois que l'heure est maintenant à l'engagement commun, concret, qui rentre dans la vie
c'est-à-dire
de chacun.
C'est-à-dire consulter pour le national et co-construire pour le local, c'est ça ?
C'est consulter, concerter et parfois co-construire au plan national. Quand il y a une négociation entre les partenaires sociaux, c'est la construction. Mais il faut aussi agir ensemble. Et ce qui est nouveau, c'est que c'est à la fois les partenaires sociaux, mais à la fois aussi les élus locaux. Je reprends mes exemples. On ne peut pas trouver des solutions à la garde d'enfants ou au logement, au transport, sans que les mairies, l'intercommunalité ou la région ou le département soient concernés. Et ça, c'est un peu nouveau d'être tous ensemble. Hier, c'était nouveau d'avoir à la fois tous les partenaires sociaux et tous les élus locaux. Donc c'est toute la France. Il y a un territoire du terrain qui était là.
Il y a Muriel Pénicaud, un débat qui fait rage entre syndicats et patronats, qui fait écho au mouvement des Gilets jaunes, c'est celui d'une prime mobilité pour les trajets domicile-travail. Doit-elle être obligatoire ou pas ? C'est la question. Qu'en pense la ministre du Travail ?
Je pense d'abord que le sujet des transports est un sujet très important. Pour dans les grandes métropoles, le sujet c'est pas tellement le coût puisque les entreprises doivent payer la moitié, par exemple en Île-de-France, du Pass Navigo, mais c'est le temps qu'on y passe, qui est quand même un temps volé sur la vie privée comme la vie professionnelle. C'est pour ça que dans les ordonnances travail, j'avais mis le droit au télétravail qui se développe très bien, parce que je pense qu'il y en a un sujet de ce type-là. Par contre, sur deux tiers du territoire, les Français sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, parce qu'il n'y a pas forcément de transport en commun. Alors Elisabeth Borne, dans la loi dite l'homme, la loi sur les mobilités, donc les transports, qui sera au Parlement en deuxième lecture début juin, a prévu des choses pour que on améliore ce sujet sur le terrain, partout.
Et donc,
mais il y a un sujet aussi qui est donc débattu actuellement, et pour l'instant, patronat et syndicat ne sont pas d'accord. On aurait préféré qu'ils se mettent d'accord. S'ils ne se mettent pas d'accord, le gouvernement tranchera.
Vous pensez quoi, je
ne réponds pas avant que soit le moment, puisqu'on a dit qu'on répondrait dans la loi. Moi, je pense que de toute façon, il faut encourager les transports qui vont permettre d'aller vers plus de transports écologiques, mais en accompagnant chacun là-dessus. Pourquoi il faut le faire ? On le voit bien, regardez le baril du pétrole qui remonte. On est totalement dépendant en France. On ne produit pas de pétrole, on ne produira pas de pétrole. Donc il faut qu'on aille pour la planète, pour notre santé à tous, mais aussi pour le pouvoir d'achat, pour l'indépendance. Il faut qu'on sorte le plus vite possible du tout pétrole. Donc ça fait partie du sujet. Comment, et c'est dans cette loi, comment on va encourager d'autres modes aussi de transport. Je pense évidemment au transport en commun, mais au covoiturage, au vélo et voiture propre avec la prime de conversion.
Alors, sur les concertations avec les syndicats et sur une réforme sur laquelle vous avez mis la main, c'est celle de l'assurance chômage, vous êtes en train de la préparer finalement au ministère du Travail. Il y aura donc un malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts et un bonus pour celles qui sont vertueuses ?
Oui, alors dans la loi décret d'assurance chômage, la loi a prévu que c'était un décret si les partenaires sociaux n'aboutissaient pas dans leurs négociations. Comme vous le savez, ils n'ont pas abouti et donc l'État reprend la main de fait. C'est pas une décision, c'est automatique. Il y a plusieurs sujets. Il faut que ça soit incitatif pour chacun pour retourner à l'emploi. Aujourd'hui, il y a des règles qui sont pas incitatives pour retourner à l'emploi. Et puis, il faut responsabiliser les entreprises. Car, comme vous le savez, en France, on a un recours, mais excessif, aux contrats extrêmement courts, un mois, voire un jour, même s'il y a des progrès, parce qu'au premier trimestre, on a eu quand même plus 14% d'augmentation des contrats à durée indéterminée. Donc, je suis contente que. Là, je me réjouis qu'on avance dans ce sens-là, parce que dans la vie, comment se projeter si on voit pas plus loin que la semaine ou le mois.
Mais donc, il y avait cette promesse de campagne
donc,
du bonus.
Il y a cette promesse de campagne, donc il fait partie des 4 ou 5 mesures qui seront retenues à la fin du processus. Et le bonus-malus, oui, il y a c'est-à-dire qu'il y a les entreprises qui remettent tout le temps les mêmes personnes au chômage en les embauchant de façon très courte, elles auront un taux de cotisation d'assurance chômage plus élevé, c'est ça qu'on appelle le malus. Et puis celles qui, au contraire, emploient plus de CDI, essaient d'aider, même en CDD, les salariés à rebondir, à avoir un emploi, elles en paieront moins. C'est une responsabilisation dans une démocratie, il y a des droits et des devoirs pour tout le monde, y compris les entreprises.
Donc c'est acquis. On peut le dire comme ça.
Oui, oui, les modalités sont encore en cours de discussion, mais le principe est acquis.
Et est-ce que pour les hauts revenus, vous allez toucher aux allocations d'assurance chômage? Est-ce qu'il peut y avoir une dégressivité, un plafond qui est revu?
C'est une question qu'on avait posée dans le document de cadrage que le Premier ministre avait envoyé aux partenaires sociaux sur l'assurance chômage.
Et maintenant, vous avez la main, et, que souhaitez-vous
donc,
faire?
En disant, tout le monde n'est pas égal par rapport au chômage. Ce qui est important, c'est que chacun puisse être accompagné. D'ailleurs, qu'on ait un accompagnement plus précoce, plus fort de Pôle emploi. On sait que plus on est accompagné vite et plus on retrouve un emploi, parce qu'après on se décourage aussi. Il y a un sujet d'accompagnement. Et puis il y a un sujet quand même sur les très hauts revenus, là où il n'y a plus de chômage, là où on est au plein emploi. Est-ce qu'il faut que ce soit les mêmes règles? On discute ça, mais c'est vraiment c'est un sujet qui n'est pas le sujet central de la réforme de l'assurance chômage.
Mais qui avait fait parler. Donc vous allez y toucher?
On regarde sérieusement, oui, si on veut un système juste, si vous voulez, c'est pas pareil d'être au chômage si vous n'avez pas de qualification, c'est 18% de taux de chômage quand on n'a pas de qualification. Vous êtes dans un bassin d'emploi très difficile que quand il n'y a pas de chômage.
Sur tous ces sujets, il y a beaucoup de questions au standard de France Inter, quelques questions politiques. Je le mentionnais tout à l'heure, c'est donc aujourd'hui le deuxième anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron. Quel bilan faites-vous pour commencer? C'est le bilan positif. Qu'avez-vous réussi? Pas, s'il vous plaît, 25 mesures, mais celle qui vous semble la plus importante. Qu'avez-vous réussi en 2 ans?
Pour moi, dans le champ du travail, on a réussi 4 choses, si j'ai le droit jusqu'à 4, pas 50. La première, c'est qu'on a commencé à faire baisser le taux de chômage. On était à 9,7%, on a 8,8%. C'est encore beaucoup. Moi, je pense à tous les chômeurs qui... Enfin, pour ceux qui ont toujours pas retrouvé un emploi, c'est qu'un chiffre. Mais ça veut dire qu'on a vaincu la fatalité. Oui, il n'y a pas de fatalité et on va continuer à descendre.
Elle est irréversible, cette pente, selon vous,
à court terme? On peut continuer. Moi, je suis sûre qu'on en a sous le pied. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a 300 ou 400 000 emplois aujourd'hui qui ne sont pas couverts faute des compétences. Donc, c'est pour ça qu'on met le paquet sur la formation et la compétence. La deuxième, c'est l'apprentissage. Parce que franchement, ça décolle. Et moi, j'en peux plus d'avoir plus d'un million de jeunes dans notre pays qui ont pas d'emploi, qui sont pas en formation. L'apprentissage, c'est une des voies qui va permettre l'accès à l'emploi, puis à des métiers de passionnés. Le troisième, c'est l'égalité homme-femme. Et le quatrième, c'est le début. Mais vous verrez, le dialogue social dans les entreprises, il va grandir grâce aux ordonnances.
Et qu'avez-vous raté quand on voit l'état du pays profondément divisé?
Je crois que on a sous-estimé, comme tout le monde d'ailleurs, le fait qu'il y a certains territoires qui sont... quand on habite dans certains territoires, on se sent loin de tout, et c'est pas complètement faux, des services de l'État ou des autres services, mais disons les services publics en général, d'où l'idée des maisons France Service que le président de la République a lancée, et on n'a pas au même accès à la formation, à la richesse, à la culture, à l'emploi.
Vous l'avez découvert,
sujet,
ça?
Non, mais je pense qu'on a sous-estimé à quel point c'était profond, c'est ancien, c'est depuis longtemps. Mais je crois que maintenant ça appelle justement des actions beaucoup plus territoriales. Je reviens à la mobilisation. Il faut être beaucoup plus sur les actions concrètes sur le terrain et rendre être proche des citoyens. Les maisons de France Service, ça va servir à ça.
On file au standard. Je salue Robert. Bienvenue Robert.
Oui, bonjour monsieur, bonjour madame Pénicaud.
Bonjour.
Oui, le procès des suicides de France Télécom a débuté hier. Demain, c'est les plans sociaux chez Ford ou comme j'ai MES l'année dernière, Carrefour, Auchan, Arjowiggins et bien d'autres, madame. À quel pourcentage estimez-vous acceptable? Parce qu'il y aura probablement des suicides aussi dans ces entreprises, madame. À quel pourcentage estimez-vous acceptable le nombre de suicides pour ces parias du privé, madame? Je tiens la finance et ceux qui se prosternent devant elle et lui font allégeance d'être en partie responsable et coupable de ces malheurs.
Merci Robert pour cette question. Muriel Pénicaud va vous répondre. Commençons par France Télécom, Muriel Pénicaud.
Oui, bonjour monsieur. D'abord, comme vous bien sûr, je pense comme tout le monde, il n'y a pas de pourcentage acceptable. Moi je me bats, on ne va pas au travail pour mourir. Ni pour avoir un accident, ça sera un des combats dans la réforme de la santé au travail. Après, sur France Télécom, même, je ne peux pas commenter parce qu'il y a une procédure de justice qui
est en cours. Mais qu'attendez-vous d'un procès de ce genre ?
Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un vrai sujet sur les sujets ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Et moi, j'appelle comment on concilie le bien-être au travail et l'efficacité au travail. En 2010, avec Henri Lachmann, qui était président de Schneider Electric, et Christian Larose, qui était à la CGT, on avait fait un rapport sur ce sujet, bien-être et efficacité au travail, et on avait observé ce qui se passait dans les entreprises. Et en fait, là où je vous rejoins, monsieur, en partie, c'est qu'il y a beaucoup des causes. C'est pas uniquement la relation personnelle avec un manager ou un collègue. Il y a beaucoup de causes qui sont liées à des sujets d'organisation, de système de management dans l'entreprise, qui fait qu'il y a une perte de sens ou un isolement ou un sentiment d'être inutile. C'est une souffrance au travail terrible, hein, d'être inutile, de faire un travail qu'on sent inutile. J'ai vu que ces temps-ci, il y a des sondages qui montrent qu'il y a un Français sur cinq qui a l'impression d'être inutile au travail. Ça, c'est terrible. Et donc,
mais est-ce que l'État peut quelque chose
alors,
là-dedans?
Ça, d'abord, il y a une grande partie, c'est la responsabilité du dialogue social et du management dans l'entreprise. Et puis, l'État, il accompagne ça quand même. Et je pense que... Mais encore une fois, c'est d'abord la responsabilité interne aux entreprises, management et dialogue social. Et en renforçant ce dialogue social au niveau de l'entreprise, je pense qu'on a permis que ces débats aient lieu plus dans l'entreprise.
Muriel Pénicaud, le 25 avril dernier, lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a affirmé: on doit travailler plus, la France travaille beaucoup moins que ses voisins. Or, c'est exactement la conclusion inverse que vient de parvenir l'Organisation internationale du travail dans sa dernière étude. Elle nous dit que les Français travaillent plus, ils travaillent plus que les Allemands, ils travaillent plus que les Néerlandais, que les Danois, que les Britanniques. Qui a raison?
Alors, ça dépend ce qu'on regarde. Si on regarde le volume d'heures travaillées dans un pays... la France, on est moins bien qu'un certain nombre de pays européens. Et ça a une conséquence, parce que qu'est-ce qui produit la richesse d'un pays? C'est la productivité et le volume d'heures de travail. C'est en grande partie ça. Et qu'est-ce que permet cette richesse? C'est ce qu'elle permet d'avoir un modèle qui redistribue socialement. C'est en France, on est très attachés à ce modèle, tous. La santé gratuite de qualité, l'école gratuite de qualité, les retraites, demain la dépendance. Donc on a besoin d'un volume global de travail. Dans la semaine, on travaille autant que les autres pays.
Les Français sont particulièrement productifs.
On est à 39,1 heures en moyenne par le temps plein, parce qu'avec les systèmes d'air supplémentaires...
Non mais c'est bien quand même. Quand on se compare, on se console.
On est aussi productif que les Allemands et plutôt plus que d'autres pays. En revanche, il y a une chose spécifique à la France qui est un souci, c'est que finalement, on éloigne du marché du travail et les jeunes et les seniors. Ça, tout le monde le constate. C'est super dur pour des jeunes d'accéder au marché du travail, ce qui est un peu désespérant parce qu'ils ont l'impression qu'on leur dit « mais on n'a pas besoin de vous ». Et pour les seniors, il n'y en a qu'une personne sur trois qui arrive à la retraite en travaillant encore.
Alors justement, est-ce que ça n'est pas contradictoire avec le travailler plus longtemps, rester plus longtemps en activité?
Si, on a besoin de personnes qui ont un travail, ça c'est le sujet de l'emploi, de la lutte contre le chômage. Et on a quand même besoin que la vie professionnelle, elle ne soit pas hyper concentrée sur une partie de la vie, mais qu'elle puisse aussi toute la vie. Et c'est ce qu'on fait aussi, par exemple, sur le travail des jeunes, avec le développement de l'apprentissage, avec le plan d'investissement compétences. On est en train de gérer la surmultiplier sur ce jeune. Et ensuite, je pense qu'il va falloir travailler aussi sur les seniors, où il y a beaucoup qui voudraient travailler et qui, aujourd'hui, sont évincés du marché du travail.
Rapidement, avant de retourner au standard et dans le sillage de la précédente question, celle de Robert, le burn-out doit-il être reconnu comme maladie professionnelle? Vous avez dit que l'État ne pouvait pas tout, que le management devait en prendre d'abord sa part, les entreprises, mais est-ce que le burn-out doit être reconnu comme maladie professionnelle?
Alors, ces sujets-là sont des sujets internationaux et l'Organisation mondiale de la santé a dit très fermement après étude que ça n'était pas une maladie professionnelle. Une maladie professionnelle, ça a des incidences très vite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sujets de burn-out. Il y a des sujets de burn-out sur lesquels j'en ai parlé, mais c'est pas une maladie professionnelle au sens strict, parce que très souvent d'ailleurs, il y a un cumul vie personnelle et vie professionnelle, et quand on arrive au désespoir, c'est qu'en général, il n'y a plus rien qui est là pour vous raccrocher. Et de toute façon, la définition n'est pas médicalement prouvée. Donc on est obligé de suivre l'OMS, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir.
Muriel est au standard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute, Muriel.
Bonjour Madame Pénicaud, bonjour Nicolas.
Bonjour.
Voilà, moi j'ai justement, vous avez répondu pour moitié à ma question qui va venir. Moi j'ai 58 ans, j'ai une carrière dans le marketing et la publicité, une belle carrière, on va dire, derrière moi, puisque ça fait 3 ans que j'essaye de revenir sur le marché du travail, je n'y arrive pas. Alors j'ai fait tout ce qu'on me dit de faire, tout ce qu'on m'a dit de faire. Le réseau, LinkedIn, les réseaux sociaux, les associations de cadres, les associations de femmes. La seule chose que j'ai pu constater dans ces associations, c'est qu'on était beaucoup de plus de 55 ans à ne plus du tout retrouver du travail. Alors, un, effectivement, travailler plus, aller jusqu'à la retraite, si l'âge de la retraite augmente, enfin, se prolonge, comment on fait? Comment on fait? Parce que moi, mes cotisations d'il y a 30 ans, enfin, elles s'amenuisent au fur et à mesure que je n'ai pas d'emploi. Et quand j'aurai 65 ans, je ne sais pas ce que je vais toucher. Voilà. Et puis moi, ça va, j'ai la chance. Enfin, j'ai la chance. Je suis mariée, donc j'ai des revenus grâce à mon mari. Mais autour de moi, j'ai plein de femmes qui n'ont pas qui sont sans revenus et qui n'ont pas de travail parce qu'elles ont plus de 55 ans et avec lesquelles j'ai travaillé et qui sont extrêmement, extrêmement professionnelles et efficaces. Donc on fait comment? On change les mentalités, comment on fait? Que peut faire l'État? Parce que je pense que c'est plutôt une question de mentalité que de mesures politiques. Et moi, j'aimerais avoir des clés. Est-ce que vous pouvez m'en donner quelques-unes?
Merci Muriel, merci beaucoup pour votre témoignage et vos questions. Muriel Pénicaud vous répond.
Oui, bonjour madame, rebonjour madame. Vous avez raison, il y a un sujet de mentalité dans notre pays, moi que je veux combattre. C'est cette idée absurde que voilà, il y a des âges mieux, plus productifs et qu'il faudrait que tout le monde ait entre en gros 28 et 50 ans, et encore j'ai été généreuse, pour pas dire 45, soit des hommes blancs qui habitent pas dans les quartiers prioritaires de la ville, soit pas handicapés, etc., etc. Moi, je pense que la chance, c'est quand même d'utiliser la croissance qui existe. Tous les jours, je vois des entreprises qui me disent « je ne trouve pas les compétences dont je veux ». Et moi, je leur dis « il y en a plein, il y a plein de talents cachés, sauf que vous n'allez pas les voir ». Et je cite toujours les seniors, parce que c'est un très bon exemple. Il y a d'autres pays où, évidemment, on sait ce qui est quand même le bon sens, que senior veut dire expérience, veut dire que vous avez fait beaucoup de choses et donc que vous allez apporter à la fois peut-être de l'équilibre.
Constat et la déploration, Muriel Pénicaud, le constat est très souvent formulé, la déploration l'accompagne. Muriel n'est pas seule, évidemment, à traverser ce genre d'expérience. C'est l'une des caractéristiques du marché du travail en France. Oui. Donc, je vous repose sa question, qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, je vous repose celle d'Alexandra Ben Saïd il y a quelques instants. À quoi ça sert de sans cesse reculer l'âge de départ à la retraite pour toucher une retraite à taux plein si de toute façon on ne peut pas travailler?
Il y a deux choses. Sur l'âge de la retraite, c'est pour ça que le président de la République a annoncé qu'on ne toucherait pas l'âge légal minimal pour partir à la retraite.
Oui, mais pour avoir une pension complète, etc. etc.
Le on système sait des surcotes, oui.
Surcotes, oui, décotes, les âges pivots.
D'abord, ça recule. On attend le rapport en juillet de Jean-Paul Delevoye. Il faut aussi que le système, au total, fonctionne, qu'il y ait des retraites aussi, vous savez, pour le futur. Moi, ça m'a... L'autre jour, j'étais dans un centre de formation d'apprentis, une gamine de 18 ans. Excusez-moi de dire une gamine, mais vu mon âge, une gamine, jeune femme de 18 ans, qui dit « mais est-ce que j'aurai une retraite ?» Moi, c'est le dire que des jeunes aujourd'hui doutent qu'ils en aient une, on doit préserver le système.
Mais là, on a une femme de 58 ans qui pose une question précise. Et la question est celle du travailler plus et du travailler plus longtemps, quand on veut bien le faire, mais qu'on ne peut pas.
Il y a une des choses qu'on peut faire sur travailler plus longtemps, parce que comme madame qui le souhaite, et comme beaucoup de personnes qui ont plus de 55 ans et qui souhaitent travailler, c'est de continuer à pouvoir évoluer professionnellement. Parce qu'il y a des métiers où on a moins besoin, puis des métiers on a plus besoin. Et jusqu'ici, il y avait une tendance à penser on ne peut pas se reconvertir à 55 ans ou à 58. C'est faux, on évolue toute sa vie. D'abord, on est jeune à 58 ans. Avec le compte personnel de formation, on va permettre à chacun aussi d'apprendre des nouveaux métiers. Parfois, on n'a pas fait le métier qu'on voulait, ou on a fait le métier qu'on voulait, mais il a évolué, ou il n'y a plus besoin.
Mais est-ce que vous reconnaissez au moins qu'il y a une contradiction, Muriel Pénicaud, entre le fait de dire il faut travailler plus, il faut travailler plus longtemps, et d'avoir un marché du travail qui empêche de travailler plus et de travailler plus longtemps. Est-ce que on peut mettre cette contradiction sur la table et à partir de là avancer?
Oui, c'est exactement vis-à-vis des partenaires sociaux, pour le coup, qui ont une responsabilité sur ce sujet, les entreprises, mais aussi dans le dialogue social. Il y a combien de dialogue social où on parle de l'emploi des seniors? Pas beaucoup. Donc ça fait partie des sujets aussi. C'est pas un jeu de questions-réponses, hein, la politique. C'est un jeu qui s'engage pourquoi. Eh bien moi, le sujet de l'emploi des seniors, je trouve que c'est un sujet aussi pour les entreprises, pour le dialogue social et bien sûr pour le gouvernement.
Muriel Pénicaud, un mot des européennes quand même. Vous étiez hier soir à Caen au meeting La Renaissance, c'est-à-dire la liste de La République En Marche, Modem, Agir. Vous pouvez le déplorer, mais est-ce que vous ne redoutez pas que ces élections européennes sanctionnent finalement ces deux ans de pouvoir d'Emmanuel Macron, que ça soit un référendum sur ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait?
Alors D'abord, hier à Caen, avec le Premier ministre, Nathalie Loiseau et plusieurs collègues, il y avait une très belle énergie, je veux le dire, parce qu'on part toujours du verre à moitié vide sur les européennes. Enfin, il y avait 1000 personnes, et je peux vous dire qu'elles sont engagées à fond. Il y avait une dizaine d'autres meetings en France en même temps, et je sais que c'était la même chose. Moi, ma première préoccupation, c'est que chacun d'entre nous se dise, mais ça vaut la peine d'aller voter. Pourquoi? Parce que aux dernières élections, il y a 4 Français sur 10 qui sont déplacés pour voter. Alors, je vote pour mon maire, là, on le fait. Je vote pour le président de la République. Et puis, quand c'est les européennes, on vote pas. Mais ça nous concerne aussi. C'est donner sa voix à d'autres qui vont faire autre chose que ce que vous voulez si vous votez pas. Et donc, moi, je crois qu'on a d'abord ce combat-là. C'est de dire, oui, ça vaut la peine. Pourquoi? Je sais pas, je suis parent. Je suis content que mes enfants fassent Erasmus.
Pour ce qui est de votre chapelle, est-ce que la liste Renaissance donne envie de voter et de se déplacer?
Oui.
C'est ça la question qui se pose
mais
en ce moment.
Après, la campagne est très courte, elle va être très intensive, parce que finalement, elle dure 3 semaines, donc c'est super court, mais je pense que, oui, il y a des choses, et par exemple, une de mes convictions, et c'est, je contribue à porter ça, c'est le sujet de l'Europe sociale. L'Europe ne peut pas être qu'un marché. L'Europe doit nous défendre, on a vu à quel point le monde est un peu dangereux, on n'y arrivera pas à un seul pays, il faut se mettre ensemble, mais il faut aussi qu'elle apporte de la croissance, de la prospérité, qu'elle permette de redistribuer. Pour ça, il faut qu'elle ait un contenu social plus fort. On a commencé...
Nous tous qui sommes seniors autour de cette table, aux yeux d'une DRH d'entreprise...
Enfin, moi, je suis senior aussi.
Oui, moi aussi. Hein. voilà, Alexandra, je ne sais
moi
pas,
aussi,
mais en tout
aussi,
cas,
aussi,
voilà, nous trois qui sommes seniors l'avons déjà beaucoup entendu. L'Europe sociale, l'Europe sociale, il faut faire l'Europe sociale, etc.
C'est quoi l'Europe sociale?
Je pense que depuis que j'ai l'âge de voter à une élection européenne, j'entends ça. Donc, quoi et comment?
Bon, comme moi, c'est la première fois que je peux y faire un petit quelque chose.
Donc, oui, non mais...
on a, depuis... D'abord, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2 ans? On a commencé à montrer qu'on pouvait avancer en faisant un travail égal, salaire égal, au même endroit. Ben ça, c'est énorme, parce que ça évite le dumping social. Ensuite, il faut aller plus loin. Donc, il faut aller plus loin sur le cotisation égale, c'est-à-dire que le coût du travail sur le même, sur les compétences, sur l'Erasmus pour tous, même les apprentis, et surtout les apprentis. On a plein d'idées là-dessus qui sont dans la campagne. Il faut une Europe plus sociale et on se bat pour ça.
Et le débat européen dans le 7-9 de France Inter, ce sera dans les 2 semaines qui viennent à partir de lundi prochain. Merci Muriel Pénicaud,
merci beaucoup,
ministre du Travail. Bonne journée à vous d'avoir été au micro d'Inter ce matin.